Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Moi, j'ai le sentiment qu'entreprendre, c'est un peu comme trouver son chemin dans une forêt en ayant les yeux bandés. Donc voilà, on prend plein de pain dans la tronche. mais si on est un peu courageux, on peut trouver le chemin.
Bienvenue dans Takeoff, un podcast où vous allez découvrir les coulisses des startups à travers les femmes et les hommes qui sont à l'origine de leur succès. Merci de nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Deezer ou votre plateforme favorite. Bonjour, je suis Guillaume Brégeras et ce matin, je suis à Paris chez Céline Lazorte, fondatrice de Litchi. Elle nous raconte comment elle a transformé une idée alors qu'elle n'était qu'étudiante en une entreprise qui a surpris toute l'industrie du paiement. De son pitch par SMS à Xavier Niel, à la vente de Litchi au Crédit Mutuel Arkéa, mais en passant aussi par ses rencontres avec Mark Zuckerberg et Mohamed Younous, Céline Lazorte a vécu une aventure entrepreneuriale fulgurante, héroïne de la French Tech. Elle multiplie les interactions avec les femmes et les jeunes pour les inciter à monter leur entreprise. Mais aujourd'hui, elle dirige Litchi, MangoPay, siège au conseil d'administration de Honnay, la banque d'Auchan et de Télécom Paris. Et elle investit aussi avec succès. Frishti, le slip français, Pumpkin, c'est une quinzaine de startups qu'elle accompagne désormais. Voici comment elle les choisit.
Ce qui m'attire, c'est l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a les yeux qui brillent, qui est animé par son idée, qui a envie de changer le monde et qui est une force de caractère. J'aime bien les caractères en fait, j'aime les personnes. On va dire que le niveau de maturité de l'entreprise, la taille du marché, le secteur est probablement un deuxième critère pour moi. Ce qui m'attire, c'est la personne, c'est le fait de voir un petit peu, de me retrouver aussi dans les gens que j'ai en face, de retrouver l'enthousiasme que moi j'ai pour Litchi et MangoPay, même 10 ans après avoir créé ces boîtes. Donc c'est ça qui me plaît et qui me convainc principalement.
Et comment vous les rencontrez, ces gens? Parce que vous êtes très sollicité, vous avez beaucoup, une charge de travail assez conséquente. Comment vous les rencontrez?
Vous venez de le dire, je suis très sollicitée, donc c'est aussi la chance, c'est que principalement les dossiers viennent à moi. Soit souvent c'est des entrepreneurs qui me contactent, soit en fait les réseaux, en fait de façon assez informelle, il y a des réseaux de business angel. Ça va être Tatiana qui est business angel aussi et qui est une amie qui va me dire mais tiens j'ai investi dans cette boîte. Céline Orjubin de My Little Paris pareil. Enfin voilà, on se refile aussi les contacts. Donc en réalité ça se fait de façon très naturelle. Je crois pas l'avoir fait de façon proactive. Ça a toujours été des rencontres au final. Comme je me suis pas fixée particulièrement de nombre d'investissements ou de montants, je les fais au fil de l'eau. Mais j'ai quand même fait plus de 15 boîtes en 2 ans, donc c'est finalement un rythme plutôt soutenu. Mais voilà, ça s'est toujours fait sur une rencontre, parfois au hasard. Par exemple, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Upstairs. Le fondateur Alexandre était en fait un ami d'un sous-locataire dans mes bureaux. Et, enfin, on s'est rencontrés complètement par hasard comme ça. Et puis je lui dis mais c'est vachement bien ce que tu fais, ça me plaît. Et je trouvais le type brillant et voilà.
Et alors qu'est-ce que vous en attendez? Parce qu'il y a forcément l'aspect financier qui parle au business angel, mais c'est souvent pas le premier critère. Donc qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui vous motive derrière ça?
Ce qui me motive, c'est je crois de retrouver un peu les débuts de ce que j'ai pu connaître avec Litchi, avec MangoPay. C'est de voir des idées qui se concrétisent, de voir des gens qui s'épanouissent dans ces projets-là, et puis de pouvoir peut-être les aider un petit peu. J'avais investi dans Pumpkin, qui est une application de paiement mobile, puis qui a été revendue au groupe Crédit Mutuel Arkéa. C'était un plaisir pour moi de pouvoir accompagner Constantin et Hugo au sein de leur conseil d'administration, aussi de façon informelle. Ça, j'avais pris beaucoup de plaisir, c'est vrai, à passer du temps avec eux, à parler produits, à parler vision, peut-être parfois à donner des bons conseils, à les voir grandir. Je crois que c'est très, très satisfaisant de pouvoir transmettre un peu de sa connaissance. Et puis, de voir qu'ils s'épanouissent aussi. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment beaucoup de l'apprentissage et de revivre aussi cette histoire entrepreneuriale, peut-être un peu par, on va dire, procuration. Parce que moi, je suis très attachée au développement de Litchi et de Mangopé. Et aujourd'hui, c'est là où je veux consacrer mon temps. Pour autant, c'est vrai que de pouvoir un peu indirectement vivre d'autres histoires entrepreneuriales est assez satisfaisant. Et je trouve que l'avantage, c'est que quand on est business angel, on en a un peu que les bons côtés, parce que du coup, les galères, c'est les entrepreneurs qui les gèrent, et nous, on voit les boîtes grandir, les bonnes nouvelles, et on voit moins les nouvelles difficiles.
Ils vous appellent jamais pour justement résoudre un problème un peu épineux? Ça arrive, j'imagine.
Si, mais c'est plus facile quand c'est pas le sien. C'est tout type de problème. Je crois que souvent, ce dont on a besoin, moi j'ai tendance à dire, je me souviens quand j'ai rencontré Julia et Quentin de Frishti, j'avais dit à Julia, le seul truc auquel je peux te servir, c'est que voilà, si t'as un coup de blues, une inquiétude, tu prends ton téléphone, on en parle, on boit un café, et voilà, je pense que c'est de ça aussi dont on a besoin, parce que parfois on peut être un peu perdu. Moi j'ai le sentiment qu'entreprendre, c'est un peu comme trouver son chemin dans une forêt en ayant les yeux bandés, donc on prend plein de pain dans la tronche, mais si on est un peu courageux, on peut trouver le chemin. Donc c'est vrai que les difficultés qu'ils peuvent avoir, elles peuvent être de toutes les sortes en réalité. Souvent on les a vécues quand on est un peu à des étapes d'après. Moi-même, il m'arrive très régulièrement de faire appel à des entrepreneurs qui sont dans les étapes après moi pour essayer de comprendre comment ils ont traversé le bout de chemin que je vis. Donc les difficultés, elles sont de tout type. Elles sont à la fois, ça peut être avec un collaborateur, avec un associé, ça peut être sur un pricing, ça peut être sur une difficulté financière, ça peut être sur le modèle même, ça peut être... Souvent, on aide seulement en fait à avoir du recul, parce que quand on est soi-même plongé dans un problème, on a du mal à être objectif.
Et vous vous souvenez de la personne... On va parler un petit peu de Litchi. Donc, ouais. 10 ans, vous disiez, vous rappelez
à peu
près 10 ans.
Litchi est lancé en novembre 2009. Mais l'idée à 10 ans,
L'idée à 10 ans. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la première personne qui vous a dit « ça ne marchera pas »
Non, parce que moi, j'oublie les difficultés. Alors, non.
Donc vous vous souvenez que des bonnes choses, entre guillemets.
Je sais pas si c'est bien, mais j'ai tendance à oublier. Je crois que j'ai une mémoire très sélective, je ne garde que ce qui est positif. Vous savez, c'est comme quand dans un couple on s'engueule, moi 5 minutes après j'ai oublié pourquoi. Alors c'est très gênant parce qu'il faut garder camper sur ses positions, mais je ne sais plus pourquoi. Ça, je me souviens.
Mais vous vous souvenez au moins si vous avez rencontré des difficultés au départ à convaincre les gens, parce que c'est vrai que quand on lit ou quand on interroge les personnes qui vous ont connu, on a l'impression que c'est un parcours au moins au début assez évident, ça part d'une expérience. D'ailleurs, vous allez la raconter, même si bon, vous l'avez déjà pas mal raconté, mais on va la raconter. Ça part d'une expérience, ça a l'air assez simple, ça se transforme à l'école, à chez HEC, et ensuite ça passe dans le monde de la vie professionnelle assez simplement, non ?
Oui, alors effectivement, après c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit au début, c'est une idée géniale, mais c'est impossible. Je me souviens, il y avait un gars de chez Mille Merci que j'étais allée voir et qui m'avait dit, si tu y arrives, t'es assis sur un tas d'or. Enfin, je ne sais comment il m'avait formulé ça, mais c'est vrai qu'on m'avait beaucoup dit, c'est impossible. Simplement parce qu'en réalité, l'idée de Litchi, c'est l'idée d'une banque sous une autre forme. Ce que moi, je voulais sûrement pas voir, ce qui m'a permis d'ailleurs d'y arriver, parce que sinon, si je m'étais dit « Ah, je veux créer une banque », je pense que j'avais beaucoup d'ambition, mais probablement pas au point de faire ça. Donc je crois que c'est ça au début qui effectivement effrayait les gens, c'est de dire « Oh, c'est s'attaquer à un tel secteur si fermé avec autant de barrières à l'entrée, de contraintes financières, de contraintes de connaissances métiers. C'est vraiment un cercle d'érudits, les banquiers, enfin, que faire ça à 25 ans et sans aucune connaissance. Et en plus, vous avez parlé d'HEC, mais au préalable, moi, j'ai pas du tout fait j'ai pas du tout un parcours en école de commerce, puisque j'ai fait un master spécialisé donc, en gestion de projet informatique. Donc, j'ai plutôt un cursus technique. J'ai fait un an seulement à HEC. Donc, mon niveau en finance, il était nul. Mon niveau en compta, encore plus nul. Je savais vaguement ouvrir Excel pour faire un business plan. Mais bon, ça s'arrêtait là. Donc, c'est vrai que j'avais pas toutes les, on va dire, caractéristiques du banquier. Donc, c'est vrai qu'au début, on m'a un peu dit « c'est une super idée, mais c'est impossible ».
Mais c'est impossible, ça voulait dire en creux, c'est pas à vous de le faire. Vous serez pas capable de le faire
ou... Non, je pense que c'était impossible au sens. Oui, alors c'est certain que d'être. J'étais sûrement pas, la personne attendue pour créer une banque. Mais de façon générale, je pense que c'était le sentiment, c'est impossible. On crée pas de banque. Enfin voilà, il y a 10 ans. Non, on ne créait pas de banque, c'était pas envisageable. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'accélération des technologies, l'émergence des fintechs, on peut se dire, il y a peut-être d'autres formes de banques d'assurance qui peuvent se créer. C'était plus difficile à entrevoir il y a 10 ans. Et encore plus, quand j'en avais 25 et que Litchi était encore que... en phase de réflexion. Le fait d'être une femme aussi, je pense que c'était pas non plus évident. J'avais pas la tête du banquier traditionnel, quoi. Je l'ai toujours pas, d'ailleurs, mais je l'avais pas du tout à l'époque, quoi.
Et au contraire, vous vous souvenez de la première personne qui vous a vraiment donné, le dernier petit coup d'accélérateur,
oui.
pour vous lancer?
Oui, je pense que... De toute façon, il faut un alignement d'étoiles et beaucoup de chance aussi pour avoir fait le parcours que j'ai. Il y a aussi beaucoup de chance à beaucoup d'étapes différentes. Probablement que le coup de baguette magique sur le berceau, c'est un monsieur qui s'appelle Oleg Cheltsov, qui est donc le premier business angel de Litchi et qui m'est tombé dessus. Il m'est vraiment tombé dessus un peu par hasard. Je venais d'être diplômée, je m'étais dit que j'allais me consacrer 12 mois à ce projet-là, sans même savoir vraiment la forme, si c'était une entreprise, tout ça, je m'étais pas trop posé la question, mais c'était surtout de me dire, l'idée m'animait, elle m'empêchait de dormir, je l'avais dans les tripes, et puis j'avais passé l'été à développer un prototype, mais vraiment... c'était vraiment une expérience très simple de je crée ma cagnotte, j'invite mes amis et ils font une promesse de participation. Donc ça ne pouvait pas avoir lieu d'être en tant que service, mais ça permettait en tout cas de valider l'expérience utilisateur. Et par un ami, Oleg est tombé sur ces prémices que pourrait être Litchi, et il avait décidé que de toute façon il allait investir dans cette boîte et qu'on allait le faire ensemble. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'entreprise créée, moi je ne cherchais pas d'argent. J'avais eu une aide de la BPI, donc j'avais l'impression d'avoir suffisamment d'argent, c'était 20 000 euros d'une subvention. Pour moi, c'était énorme, donc je me disais, c'est bon, j'ai pas besoin d'argent. Et Oleg m'a pas lâché, il m'a dit, je vais investir dans ton truc, il disait d'ailleurs. Enfin, je vais investir dans ta boîte. Et je pense qu'en réalité, il n'y aurait pas eu Oleg, il n'y aurait pas eu Litchi, parce que j'aurais probablement finalement... eu d'autres rencontres, je me serais sûrement rendu compte qu'il fallait en fait de l'argent pour démarrer un projet comme ça, beaucoup trop d'argent que ce que j'aurais pu être capable de trouver dans une situation où moi j'habitais en coloc, j'avais un ordi et c'était les seuls moyens que j'avais, quelques économies de côté, des parents qui m'avaient encouragé, qui m'avaient dit on t'aidera 12 mois et puis après dans 12 mois tu dois être autonome. Et donc c'est vrai que je pense sans Oleg qui un a cru au projet et deux m'a dit je te donne l'argent qu'il faut quel qu'il soit, ça a quand même beaucoup aidé.
D'accord, Oleg c'est le cofondateur de Photolab.
Exactement.
Et ensuite il y a d'autres business angels qui se sont
ouais.
posée sur le berceau, ouais. notamment ouais. Xavier Niel et Jérémy
ouais.
Berrelli.
Ouais.
Bah. Comment ça se passe à un moment donné, c'est l'alignement d'étoiles qui continue?
C'est, bah après, c'est, on va dire qu'une fois que la pompe elle est amorcée, c'est plus facile. Donc Oleg m'a aidé à rentrer en contact avec Jérémy et Xavier. Du coup, enfin voilà, il avait à poser une sorte de, on va dire, de tampon, de trust, en disant c'est bon, elle est pas trop cloche, peut-être on peut y arriver. Et de fait, c'était plus facile pour moi de convaincre Xavier et de convaincre Jérémy de venir à mes côtés pour démarrer, enfin lancer ce projet-là. Et c'est vrai qu'ils ont tous les deux été partants immédiatement.
Mais à l'époque, vous aviez quoi? Vous aviez
26
ans. Ouais. Qu'est-ce que ça représente? Comment ça se passe de se retrouver face à ces personnes-là qui représentent quand même un peu l'écosystème, qui sont les parrains,
hein? Ouais.
Est-ce qu'il y a une sorte de timidité on a l'impression que c'est un peu ahurissant de se retrouver face à ces gens-là? Comment...
Bah, alors, ce qui était drôle, c'est que Xavier, en fait, je ne l'ai pas rencontré à ce moment-là. Tout s'était fait par téléphone et beaucoup par l'intermédiaire d'Oleg. Pour la petite histoire, du coup, Oleg m'avait dit « prépare un executive summary et je l'enverrai à Xavier ». C'était moi qui lui avais demandé, évidemment pas folle, je lui avais dit « je sais que tu as Xavier Niel comme... Enfin, dans tes proches, est-ce que tu pourrais lui parler de Litchi ? Il m'avait dit, bon, fais un executive summary, on verra bien. J'avais fait, du coup, pour essayer de me mettre différemment en avant, j'avais pas voulu faire l'executive summary, donc j'avais fait un screencast, et je m'étais enregistrée, j'avais enregistré ma voix, et j'avais montré le parcours, en fait, client de l'expérience, en disant, c'est l'anniversaire d'Oleg, on crée une cagnotte, je t'invite à participer, Xavier, tu mets 20 euros dans la cagnotte, enfin bref. Toute l'explication de la démonstration du service, du pourquoi, ce qui soulevait ensuite beaucoup de points, de pourquoi faire ça, la taille du marché, les usages possibles, comment le faire, etc. Et j'avais fait ça en 1 minute 30, puis j'avais envoyé ça à Oleg. Et puis pendant 15 jours, j'ai eu plus de nouvelles, donc je me suis dit, c'est même peut-être 3 semaines. Je me suis dit, j'ai raté mon tour, quoi. J'aurais dû faire comme tout le monde et envoyer un executive summary avec marqué la taille du marché, X milliards, etc. etc. La chance a sonné à ma porte. Je pense que Oleg et Xavier devaient se rencontrer, je sais pas pour quel sujet. Et Oleg m'a appelé en me disant, je suis avec Xavier, on voudrait parler de Litchi, de la Valo, l'argent que tu veux lever, etc. Et j'étais dans le train, j'allais en fait à ce moment-là avec l'incubateur d'HEC passer un week-end dans les Vosges, histoire de... ils emmenaient les entrepreneurs prendre l'air probablement et respirer un peu et boire des bières. Et donc évidemment le TGV, on capte pas, donc je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je descends du train? Est-ce que je descends pas du train? Enfin, c'était la panique totale. Du coup on a échangé par texto. Donc c'est marrant parce que je dois encore avoir les textos. À chaque fois que je raconte cette histoire, je me dis qu'il faudrait que je retrouve ces textos. Et donc on a échangé par texto en se disant, c'est le seul moyen pour lequel on peut échanger maintenant. Et donc en fait, j'ai levé de l'argent avec Niel par SMS interposé, ce qui était complètement irréaliste. Donc moi, j'étais persuadée que ça allait jamais le faire. Et Jérémy m'avait dit, Jérémy Berrelli, t'inquiète pas, c'est un homme de parole. Si t'as dit que c'était OK, c'est OK. Et je l'ai rencontré en fait que beaucoup plus tard. Donc du coup c'était moins impressionnant, j'étais quand même très impressionnée, et en même temps c'est des gens qui ont une telle simplicité et ils sont tellement faciles d'accès tous les trois que ça mettait beaucoup moins de distance que par exemple ont pu le mettre à des moments différents des VC, en étant en costard cravate, en vous recevant dans une salle de réunion qui fait 30 mètres de long, à chacun un bout de la table. J'ai des souvenirs complètement effroyables où moi naturellement je me serais assise à côté des gens et que vous savez, ils vous mettent un bout à un autre de la table. Ils apportaient beaucoup de simplicité dans la façon de se parler. Et donc je me sentais plus mis au même niveau, bien qu'évidemment la réussite des trois est telle que c'est très exceptionnel, mais il y avait cette simplicité qui faisait que c'était plus facile pour moi d'échanger avec eux que ça ne l'était avec voilà, quelqu'un dont c'était un peu plus le métier de faire de l'investissement, en tout cas à cette époque-là.
Et à l'époque, il y a encore des gens qui vous disent « non, c'est pas possible » ou le fait d'avoir justement ces parrainages, bon, ça calme un petit peu...
Alors, oui, ça a effectivement aidé pour... Enfin, c'est certain, puisque ensuite, j'ai 360 Capital Partners, donc qui a investi à leur côté. Et effectivement, ils s'étaient dit, bon, bah, si Niel y va, c'est qu'il doit y avoir du sens. Donc, ouais, c'était un peu le... C'est que, en fait, Oleg m'a porté chance, et puis du coup, Jérémy et Xavier sont arrivés, puis 360 est arrivé. Pour autant, c'est vrai qu'il y avait des fonds où je me souviens, je me sentais pas du tout à l'aise dans l'échange, et Manuelé de 360 était la seule personne qui, quand on a discuté ensemble, s'est assis à côté de moi et pas à l'autre bout de la table, et ça m'avait marqué. Je me suis dit, bon, en fait, il était à mes côtés et pas en face.
Vous avez eu beaucoup justement des fonds à ce moment-là?
J'en ai vu quelques-uns, et en fait, très naturellement, la discussion s'est approfondie avec 360, et enfin, surtout avec Emmanuelé. Et moi, je m'étais sentie très à l'aise, et puis c'était vraiment quelqu'un qui s'était beaucoup attaché au produit, à comprendre pourquoi. Là où on me posait beaucoup des questions de taille de marché, honnêtement, la taille de marché des cagnottes en ligne, enfin, même maintenant, personne n'est capable de répondre à cette question-là. Donc, à l'époque où j'imaginais que peut-être j'allais faire un service de cagnotte en ligne, je sais pas, je disais 400 millions parce qu'il fallait dire un truc, mais je n'en avais pas la moindre idée. D'ailleurs, avec du recul, j'aurais dû dire 4 milliards, ça aurait eu l'air beaucoup, 400 milliards, ça aurait l'air beaucoup plus conséquent. Et voilà, et c'est vrai que ben, je pense l'aisance et le fait de se sentir en confiance et en même temps comprise et je me suis dit voilà, on va, enfin, il va m'épauler. Et puis ma mère m'avait dit cette phrase, elle m'avait dit, ma fille, s'associer c'est pire que se marier. Alors du coup je m'étais dit, bon, il faut bien que je choisisse quoi. Alors j'ai un russe, j'ai Niel, bon allez, je vais prendre un italien, ce sera bien avec lui.
Et est-ce que vous sentez que le rapport de... C'est un rapport de force que vous décrivez finalement aussi avec les VC à l'époque, où il y avait une certaine distance, en tout cas, on sent que c'était un peu ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce rapport s'est un peu inversé, avec le nombre de start-up, l'argent disponible. Il y a 2,7 milliards, je crois, que les fonds ont levé depuis entre janvier et août, là, on n'a jamais autant d'argent dans l'écosystème. Ouais. Est-ce que vous sentez que justement ce regard a un peu changé et que le rapport de force est en train de changer un peu?
Peut-être, effectivement, un peu. Il y a déjà plus de gens jeunes au sein des VC qu'il y en avait à l'époque. Bon, après, on a vieilli aussi, enfin, moi la première. Donc je les vois jeunes maintenant, alors probablement à l'époque, ils ne l'étaient pas. Mais je pense qu'effectivement, il y a plus de personnes jeunes. Je partage votre avis avec ne serait-ce que la quantité d'argent. Il y a beaucoup plus de startups aussi. Hein, donc en fait, en réalité, on voit moins la concurrence qu'il y a, mais elle est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Il y a probablement effectivement un peu moins de distance qui s'est installée, parce que les VC ont compris que pour aller chercher les bons projets, il faut aussi les séduire et se mettre à leur niveau. Et je pense aussi que les entrepreneurs se sont professionnalisés. Là où moi, j'arrivais dans un truc où il n'y avait pas d'accélérateur, il y avait très très peu d'incubateurs. L'incubateur d'HEC était le premier, mais il n'y avait même pas de locaux. Donc c'était seulement un concept d'être à l'incubateur d'HEC. Il n'y avait aucun réseau de network, seulement les Open Coffee. Et c'est tout, enfin, il n'y avait rien, donc c'était vraiment pour moi, il y avait Niel, il y avait Pierre Kosciusko-Morizet, et puis Marc Simoncini, et c'est tout, enfin, c'est le monde du web était fait par ces trois personnes, on va dire Jacques-Antoine et Oleg, mais voilà, c'était vraiment très différent. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les entrepreneurs arrivent de façon, sont beaucoup plus sûrs d'eux, parce qu'ils ont été coachés, accompagnés, leur pitch est prêt, ils savent un peu les règles du jeu, donc ils ont plus de maturité que ce que je pouvais en avoir à l'époque. Les VC ont compris que traiter un entrepreneur comme une ligne de financement sur un fichier Excel, ça marche plus. Il y a un peu plus de gens jeunes, donc effectivement, il y a probablement un peu une meilleure rencontre de ces mondes-là, mais ça reste deux mondes qui n'ont rien à voir.
qui ont besoin l'un de l'autre.
Qui ont besoin l'un de l'autre, complètement. Mais qui ne sont pas faits des mêmes gens, mais c'est normal. Je veux dire, on ne peut pas être c'est difficile d'être un bon entrepreneur et un bon VC, je pense.
Et aujourd'hui, vous lanceriez Litchi, ou est-ce que vous essayeriez de prendre le même chemin et de forcément lever des fonds? Est-ce que c'est aujourd'hui vraiment nécessaire? Est-ce qu'on peut réussir aussi sans lever de fonds?
Sûrement, mais pas dans un projet comme Litchi, parce que c'est un projet qui avait besoin de financement, et cet argent-là, il fallait bien le trouver quelque part.
Le système bancaire traditionnel, les investisseurs, des banquiers traditionnels n'est pas, pas bon.
Un prêt, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'un prêt, il n'est pas fait pour ça. Vous allez prendre un prêt même qui a un taux de, on va dire, 5%, ce qui serait énorme. Pour le banquier, la garantie du remboursement de ce prêt pour que son écosystème fonctionne, elle doit être quasiment de 100%. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui quand on entreprend, parce que le niveau de risque est beaucoup plus élevé. Donc moi, je trouve tout à fait logique que le prêt bancaire soit absolument pas adapté au financement des startups. Il peut l'être à un certain moment de la vie de l'entreprise, par exemple, j'en sais rien, pour financer un stock parce que l'entreprise a déjà 3-4 ans derrière elle, au moins une connaissance de son, on va dire, de son ADN et de son fonctionnement. Là, ça fait plus de sens, mais pour financer un démarrage, financer de l'innovation, moi, je ne suis pas choquée que le prêt bancaire ne fonctionne pas, puisque structurellement, il n'est pas fait pour ça, ou alors il n'aurait pas les mêmes coûts, les mêmes conditions, le même, etc. Donc il faut aussi, je pense, être juste dans la façon dont on interprète les choses. On ne peut pas tout reprocher aux banquiers. Leur dire, vous ne financez pas l'économie réelle, etc. Enfin, ou en tout cas l'économie numérique, c'est compliqué par la nature même de l'économie numérique. Donc de fait, je pense que lever de l'argent n'est pas une fin en soi. Ça n'est pas une obligation. Et ça n'est pas un mal non plus. Il y a des projets dont l'ADN et dont la structure est faite pour cela, et d'autres où ça n'est pas le cas. Il ne faut pas se sentir vexé de se dire en fait mon projet n'est pas fait pour lever des fonds. C'est pas grave, c'est pas un moins bon projet, c'est seulement un projet différent. Voilà. Et quand on lève des fonds, il y a aussi un certain nombre de règles du jeu. Il faut être conscient que le VC qui vient, ou le business angel, forcément il a un multiple affaires qui est important, parce qu'il va couvrir le risque des autres projets qui se seront bouffés une tôle, et donc voilà, donc là, il faut connaître les règles du jeu.
Comment on ne se fait pas avoir justement à ce moment-là, quand vous avez 25-26 ans, vous êtes face à des VC?
Mais alors, il ne faut pas penser que par défaut, le VC va vouloir essayer d'avoir un entrepreneur. Je pense que ce n'est pas le cas.
Non, mais il va pousser le curseur, c'est normal. Ou en tout cas, après, forcément.
Je ne suis pas certaine, parce que ce n'est pas sain pour lui non plus d'avoir un entrepreneur démotivé, ou d'avoir un entrepreneur qui est trop dilué, parce qu'après, il ne peut plus relever. S'il ne peut plus relever, c'est du coup le VC qui va être obligé lui-même de mettre uniquement de l'argent, et donc ce n'est pas sain. Donc, moi, je suis assez convaincue que. Bon, je ne peux pas parler pour l'entièreté du monde des VC, mais que. Les VC n'essayent pas d'arnaquer les entrepreneurs. Après qu'ils ne les aident pas et les fassent aller dans une mauvaise direction, ça c'est possible. Mais pour autant, je crois que ne serait-ce qu'encore une fois, un bon deal, il est bon quand il est juste pour tout le monde, à la fois pour l'entrepreneur, à la fois pour le VC. Les VC l'ont compris, ils ont intérêt aussi à ce que l'entrepreneur soit motivé. Alors probablement qu'il y a un certain nombre de clauses où effectivement il faut faire attention quand on les signe, parce qu'elles peuvent avoir un impact qu'on ne réalise pas nécessairement, etc. Mais moi, j'ai pas le sentiment, alors peut-être que c'est encore ma part de naïveté, mais qu'avec avec des VC professionnels, il y ait une tentative d'arnaque, parce que de toute façon, à la fin, c'est lui-même qui va se retrouver dans une situation où c'est un écueil total. Donc voilà, après, je pense qu'il y a les incubateurs, encore une fois, qui accompagnent bien... qui explique aux entrepreneurs quelles peuvent être les clauses à signer, qui sont justes, celles qui ne le sont pas. C'est comme ça que ça doit fonctionner, je pense.
Et en 2015, donc, vous vendez, vous vendez 85%.
86%.
Ouais. C'était pas prévu, ça, vous ne l'aviez pas forcément imaginé, ou de manière aussitôt. Donc qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que ça se concrétise, et pourquoi vous avez cédé à ça?
Alors... Il paraît qu'on est que les meilleures ventes sont celles qu'on n'attendait pas, c'est probablement juste. Nous, on était dans une situation à cette époque-là où la boîte était rentable depuis 2014. On avait levé un peu moins de 7 millions d'euros sur 3 tours entre l'amorçage, la série A et la série B. Donc relativement peu d'argent quand même à l'échelle du métier, de la taille de marché, de notre développement. Et on avait pour ambition de relever un tour conséquent de façon à nous permettre de nous développer à l'international et puis d'accélérer là où on voyait qu'il y avait du potentiel, en sachant que à ce moment-là, on avait les deux activités, Litchi et Mangopé, qui se développaient bien. Donc ça, c'était un peu la situation à ce moment-là, qui était plutôt une situation très favorable pour nous. Et donc, on s'est mis amorcer une série C. L'idée était de lever à peu près 25 millions d'euros, trancher 15 plus 10, on avait prévu de faire. Bon, ça, c'est vraiment du détail. Et on avait trouvé deux fonds, un international et un fonds français qui suivait, plus nos historiques. Donc, ça s'était vraiment fait vite. Et sachant que le fonds international avait été cofondé par des anciens du secteur du paiement, donc moi ça m'attirait beaucoup aussi de travailler avec des gens qui avaient réussi à sortir une boîte à 1 milliard. Enfin voilà, c'était aussi ça qui était assez intéressant dans notre secteur, c'est qu'il y a peu de gens qui ont réussi à challenger le métier du paiement et de la banque. Donc voilà. Et puis en fait, on a eu à ce moment-là l'offre de Crédit Mutuel Arkéa, qui était du coup effectivement une offre de rachat majoritaire, donc une offre de rachat. Et ce qui m'a convaincue, c'est évidemment plusieurs points. Le premier, c'est que ça faisait 5 ans qu'on travaillait avec Crédit Mutuel Arkéa. On connaissait bien à la fois l'équipe dirigeante et puis les opérationnels. Il y avait une très bonne confiance entre nous. On avait le même projet industriel c'est-à-dire à l'époque et qui s'est avéré la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire de laisser Litchi et Mangopé se développer en stand-alone, mais en ayant un appui sur la banque. Et donc l'appui, il pouvait être sur le format de la techno et puis de la connaissance que nous, on n'a pas nécessairement dans certaines parties du domaine bancaire, donc on avait assez peu en tout cas à l'époque. Donc le développement stand-alone avec un appui, du financement et la garantie que ça allait bien se passer. Enfin, ça c'était plus, on va dire, du domaine un peu de l'intangible, mais que ça allait bien se passer, qu'il nous ferait confiance et que voilà, que c'était pas des promesses en l'air, et etc. Et moi, ce que je voulais pour le projet et pour l'entreprise, c'est en fait trouver le meilleur partenaire pour me permettre de le développer. Le reste, que ça soit sous forme de levée de fonds, de vente, de LBO, enfin ça, on va dire, c'est de la technicité quelque part. Mais moi, ma volonté, elle était vraiment de pouvoir trouver le meilleur partenaire pour m'aider à piloter ce projet-là de façon européenne avec une ambition conséquente. Le fait d'avoir un industriel à nos côtés, ça nous donnait aussi un peu plus de temps long, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on fait rentrer un fonds, on sait que il va rester pour une durée déterminée dans la boîte. Au stade où on en était, la durée, elle était de 3 à 5 ans maximum, on va dire. Donc le fait de s'accompagner d'un industriel nous donnait du temps plus long, avec la confiance de pouvoir développer stratégiquement le projet comme on l'imaginait, d'avoir globalement les mains libres complètes sur le pilotage, de l'accès à du financement et puis de l'accès à la techno. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix là c'est-à-dire qu'à la fin, je me suis dit, le projet avec Crédit Mutuel Arkéa de cession, il est bon pour l'entreprise, il est bon pour les clients de l'entreprise, il est bon pour les salariés, il est bon pour les actionnaires, il est bon pour le management. C'est que c'est le bon.
Il y a quand même l'aspect personnel qui rentre en jeu à ce moment-là. Vous êtes encore très jeune, c'est la première boîte, et on parle de 50 millions sur la vente. Alors, ce chiffre-là, en tout cas, il n'a jamais été confirmé ou pas, mais en tout cas, c'est une grosse somme d'argent. À quel moment ça rentre en jeu cette dimension personnelle de se dire, je peux quand même aussi prendre un gros ticket à ce moment-là et pouvoir faire peut-être d'autres choses, pouvoir faire du business angel, faire d'autres choses. À quel moment ça devient un élément clé pour concrétiser cette vente? Et est-ce que vous en avez parlé autour de vous à certaines personnes?
C'est évidemment, ça change la vie, donc c'est certain que c'est un élément qui est important, qui n'était pas fondateur pour moi dans la décision. Le petit avantage qu'il y avait à vendre, c'était qu'effectivement ça dérisquait ma situation personnelle au niveau de mon patrimoine, ce qui n'était pas le cas ou beaucoup moins le cas si je levais des fonds. Et donc ça me donnait aussi plus de tente cette capacité de volonté à uniquement me consacrer sur le développement de Litchi et de Mangopé en m'enlevant, on va dire, toute contrainte financière, de problématiques à réfléchir à comment je vais structurer mon patrimoine, etc. Je suis à risque. À ce moment-là, j'avais 32 ans. Te dire, ça fait déjà 6 ans que je fais ça, avec un salaire qui était pas, qui était très très, on va dire, je sais pas, que petit. Enfin, j'étais le 6e salaire de la boîte, parce que voilà, c'était pas ma problématique. Mais à un moment donné, c'est vrai que de temps en temps, c'était un peu difficile. Donc d'un coup, en fait, on enlève toutes ces contraintes-là, et j'avais que la possibilité qui m'était offerte de me consacrer à mon projet, qui est ce qui m'anime, parce que c'est vrai que, enfin, moi, je suis très attachée à Litchi et à Mangopé. Pourquoi, c'est difficile à dire. Je suis très attachée aux gens. Je suis très attachée à la façon dont on fait les choses. Et puis, je suis très attachée aux résultats qu'on obtient. Voilà, donc c'est vrai que s'il y avait évidemment ce point-là qui était important. J'en ai parlé autour de moi à 2-3 personnes qui pouvaient me conseiller, des gens qui avaient déjà vendu des boîtes et qui savaient par quoi j'allais passer, et qui voilà, pouvaient me dire. C'est vrai que pour moi, la question, c'était de dire, est-ce que je vends maintenant ou est-ce que je prends l'option de vendre 5 fois mieux dans 2 ans. Et puis mon cousin m'a dit cette phrase, il m'a dit, écoute, il vaut mieux toujours vendre trop tôt. Et effectivement, je crois que c'est un bon problème. Voilà.
Et alors, si on parle un peu du produit aussi, Litchi, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que donc ça fait voilà, près de 10 ans que maintenant que l'idée est née. Est-ce que vous l'avez, enfin, on va en parler par les utilisateurs. Aujourd'hui, vous avez plein de gens qui utilisent Litchi pour des projets très différents.
Ouais, 8 millions de clients. Ouais.
8 millions de clients. Mmh. Est-ce qu'il y en a certains qui vous dites, oui, là, ça y est, je comprends pourquoi j'ai fait ça. Parce que vous voulez changer le monde quand vous étiez petite. Ouais. C'était un peu votre,
tout à fait,
votre mantra. Donc,
Oui. Oui, et je me souviens assez bien quand, et donc c'était déjà il y a date d'un certain nombre d'années, une dame qui avait créé une cagnotte pour son petit-fils atteint d'une maladie orpheline, donc bébé, et dont les parents faisaient beaucoup d'allers-retours pour aller à l'hôpital pour se relayer, pour s'occuper de leur petit garçon. Et donc, elle avait fait une cagnotte pour que l'entourage puisse participer et les aider à payer tous les frais annexes qui sont liés à une hospitalisation, le fait de pouvoir avoir un lit pour le parent à côté, etc. Et j'avais participé à cette cagnotte. Il y avait quand même pas mal d'argent qui avait été collecté. Et la grand-mère m'avait envoyé un mail super mignon sur Facebook en me remerciant, pas pour ma participation, enfin c'était anecdotique, mais d'avoir créé Litchi parce que ça leur permettait d'avoir trouvé cet argent, et que pour elle, elle disait, ben, en fait, vous apportez un confort et vous êtes en train de changer la vie de gens qui en ce moment ont une vie terrible. Et je crois que ce jour-là, je me suis dit qu'on faisait quelque chose de bien.
Et vous en avez eu d'autres exemples, je crois que pendant les attentats notamment.
Des histoires comme ça, maintenant il y en a tous les jours. Et c'est vrai que le service a beaucoup été utilisé pendant les attentats. Ça a été très dur pour nous parce qu'on a été au contact de toutes les familles des victimes. En mettant en place une cellule de crise pour les accompagner, avec. C'était difficile, c'était vraiment difficile parce que on devenait un lien, on représentait finalement aussi, je sais pas, un interlocuteur, et enfin, c'est allé loin dans les échanges, dans les discussions. Je sais que voilà, on a eu beaucoup de photos, par exemple, des enfants qui ont été victimes parce que les familles voulaient nous les montrer. Voilà, c'était assez difficile à vivre, surtout pour mes équipes. Moi, j'étais plutôt en deuxième rang, mais c'est vrai qu'on a pu beaucoup aider pendant les différents attentats qu'il y a pu y avoir. Et qu'en fait, c'est devenu un phénomène de société, Litchi. C'est-à-dire que c'était une façon d'exprimer son soutien, notamment la cagnotte pour Charlie Hebdo. Il y a eu des milliers de participations du monde entier et les messages qui étaient écrits, qui étaient très touchants, moi je les ai beaucoup lus. Les gens disaient, ben voilà, on veut vous montrer notre soutien, on veut vous montrer que ce monde peut être bon et qu'il n'est pas que mauvais. Et c'était une façon, effectivement, en fait, la générosité d'exprimer un soutien humain fort. Et on s'est rendu compte qu'on était en réalité une expression ou un phénomène de la société. Et en ça, ouais, c'était assez intense à vivre pour nous. Voilà, il y a eu des histoires plus faciles à gérer, on va dire. Et après, des belles histoires, il y en a tous les jours. Il y a un jeune homme qui est en train de collecter de l'argent pour... donc qui est handicapé et qui est en train de collecter de l'argent pour acheter un fauteuil pour pouvoir participer aux Jeux Paralympiques. C'est des super belles histoires, il s'appelle Romain et du coup nous on est super fiers parce qu'on se dit ben voilà, et puis mon service marketing et Antoine qui est notre community manager est en contact avec lui, est super content, enfin c'est parce qu'en réalité derrière la cagnotte il y a surtout des histoires de personnes et quand on peut aider on est content, ouais.
Et vous imaginez un jour peut-être collecter ces histoires ou les faire ressortir d'une manière ou d'une autre?
Ouais, c'est quelque chose qu'on amorce. On a du mal même à en faire on va dire le récapitulatif total. De temps en temps, j'essaie de me dire combien vraiment d'enfants on aide, combien d'associations on aide. C'est dur d'avoir un compteur à jour. On les illustre, on les accompagne pas mal via notre blog, via les réseaux sociaux. Moi j'aimerais bien un jour raconter peut-être sous forme de livre ou voilà toutes les histoires qu'il y a eu. Enfin, il y a des histoires dingues, la cagnotte de Rémi Gaillard elle est absolument géniale pour la SPA de Montpellier. Et en fait c'est toujours des histoires de personnes, donc c'était il y a un an, ils décident de s'enfermer dans une cage et de ne pas en ressortir tant qu'il n'y a pas 50 000 euros collectés. En quelques heures, il collecte bien plus que 50 000 euros. En 3 jours, il collectera presque 300 000 euros. Enfin, c'est énorme. Et moi, j'ai passé le week-end au téléphone avec lui. Parce que, encore une fois, Litchi aussi représentait ce qui était finalement son acte, de voir le compteur défiler. C'était très dur pour lui d'être avec les animaux dans le froid, de vivre ce qui se passait. Et donc, j'ai passé le week-end au téléphone avec Rémi. Et la première fois où on s'est rencontrés, après ça, on s'est tombé dans les bras et je l'avais fait venir à Paris pour qu'il raconte cette histoire parce qu'elle était complètement dingue et auprès de mes salariés et puis voilà, on avait invité quelques personnes et il avait dit moi je suis venue uniquement pour Céline parce qu'au-delà de Litchi et je lui disais je déteste Paris mais je suis venue parce qu'il s'était passé un truc entre nous, voilà, on s'était aidés et tout, c'était rigolo et en fait c'est ça qui nous tient à cœur et qui est chouette à vivre.
Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous n'imaginez pas faire autre chose que Litchi et Mangopé.
Ouais c'est une bonne c'est satisfaisant de se dire qu'on change un tout petit peu le monde. Ouais. Non, j'ai pas envie de m'enlever de ça. Oui, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis très attachée à Litchi et à Mangopé, c'est de se dire on fait les choses et probablement qu'on les fait bien.
Et alors, Ronan Lemoyle, qu'on n'a pas encore cité, mais qui est un personnage aussi un peu clé dans votre histoire, de Crédit Mutuel Arkéa, c'est vrai, il me disait, Céline, ça ne sera pas sa seule entreprise. Je ne sais pas quand elle partira, mais je sais que ça ne sera pas sa seule entreprise. Est-ce que vous vous projetez déjà dans l'après Litchi Mangopé?
Non, mais il le sait bien pourtant. Non, c'est marrant, hein. J'ai jamais eu d'autre idée que celle-là. Ou alors, en fait, je les ai pas vues parce qu'aujourd'hui, vraiment celle qui m'anime et qui me porte, c'est Litchi et Mangopé. Mmh. Aujourd'hui, je passe plus de temps opérationnel sur Mangopé, mais j'y trouve effectivement beaucoup de satisfaction. Mon désir un peu entrepreneurial, je l'ai, comme on en parlait tout à l'heure, comblé en ayant ce rôle de business angel à côté. Et en fait, je me sens assez aussi on va dire, épanouie dans le rôle de dirigeante. Je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir des moyens de mettre en place des projets, des idées, de les faire assez vite. Voilà, enfin, puis c'est une source de satisfaction, d'apprentissage qui est énorme. Il y a déjà quelques semaines, hein, c'était avant l'été, j'ai pu rencontrer Mohamed Younous grâce à Litchi, parce que c'était un projet qui l'intéressait. Enfin, c'est la rencontre d'une vie pour moi, c'est absolument passer une heure avec Younous, c'est un souvenir extraordinaire. Un mois avant, j'avais rencontré Mark Zuckerberg, qui voulait rencontrer des innovateurs dans le monde et j'avais pas fait partie des 10 personnes sélectionnées. Voilà.
C'est comment ça se passe avec ces personnes-là? Ils ont l'air tellement. Enfin, notamment Zuckerberg, qui a l'air franchement un peu inaccessible et.
Ah bah, c'est deux personnalités très différentes. Difficile, difficile de les comparer. La rencontre avec Zuckerberg était super intéressante, probablement un peu plus formelle, mais c'est quelqu'un qui honnêtement, a une capacité à analyser et à processer l'information qui est hallucinante. On était 10 autour de la table du monde entier et avec 10 projets complètement différents, et on avait un débat et il connaissait chaque projet, chaque histoire, chaque... Et il avait une capacité de vision, d'analyse, mais pas de vision de juste « Ah, ok, le secteur du paiement ». Enfin, il avait une vision à chaque fois systématiquement globale sur l'impact que peut avoir un projet, sur comment il peut, sur du long terme, changer le monde, quelle est la position de Facebook par rapport à ça, s'il y en a une, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très visionnaire et très analytique. Younous, c'est une rencontre humaine extraordinaire. C'est la première fois quand il m'a vu, il m'a pris dans ses bras en me disant merci pour ce que vous faites pour les autres. Et je lui ai dit mais moi je fais rien. Enfin, vous êtes Mohamed Younous. Et il me dit mais si vous encouragez les jeunes à entreprendre, les femmes à entreprendre. Enfin, et il était mais extraordinaire. Ça m'a vraiment beaucoup touchée.
Et dans le cadre de ces deux rencontres, est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose au sujet de Litchi qui vous a permis de le regarder différemment ou de l'envisager différemment?
Pas nécessairement, enfin, probablement un peu plus avec Younous qui, encore une fois, m'a dit que pour lui, le fait même d'entreprendre, je donnais aussi la voix à d'autres et l'envie, et que c'était à la fois une responsabilité et en même temps, évidemment, pour lui, quelque chose qui faisait que je changeais le monde dans sa vision de comment on change le monde. Et moi, j'en avais probablement pas conscience. Alors évidemment, c'est très gentil de sa part, hein, mais c'est certain que du coup, il y a une certaine responsabilité, oui.
Donc, Litchi, 8 millions de clients, vous me disiez. Combien d'argent récolté au total, aujourd'hui?
Depuis le début de la création? Aucune idée.
Ça va.
Non, il faudrait que je fasse la somme. Beaucoup.
Beaucoup d'argent. L'entreprise en elle-même, est-ce qu'elle est toujours... vous mentionnez qu'elle était rentable juste avant le rachat. Est-ce qu'elle est toujours dans cette dynamique-là aujourd'hui ou...
Alors, en septembre 2015, du coup, quand on a vendu à Crédit Mutuel Arkéa, ils ont investi 10 millions d'euros. Donc, sur les marchés historiques, effectivement, on est rentable et on est resté rentable. On a investi pas mal à l'international, ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, l'entreprise, on cherche pas à pousser de façon extrême la rentabilité. On réinvestit tous les profits qu'on fait. Donc, c'est effectivement plutôt un stade de développement assez sympa.
D'accord. Et vous êtes dans combien de pays aujourd'hui?
Alors, c'est une question qui est difficile à répondre parce que c'est pas la même réponse en fonction de Litchi et de Mangopé. Ouais. Donc, Litchi, on est présent dans à peu près 150 pays. On essaye d'être le plus global possible. L'idée étant que, si je crée ma cagnotte, j'en sais rien, à Montpellier, il faut que mon pote qui est en voyage en Amérique latine, il puisse participer, et celui qui est expat au Japon puisse participer aussi. Bon, je le caractérise un petit peu, mais c'est un peu ça l'idée, et aussi ce qui fait la force du service. Donc on essaye d'être le plus global possible. Mangopé, ses clients sont uniquement sur la zone européenne. Après, on processe des devises dans le monde entier, mais nos clients sont sur les 31 pays de la zone européenne.
Et dans les deux cas, vous avez des concurrences aussi. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément... est-ce que vous l'aviez envisagé quand vous montez Litchi, la concurrence? Vous vous êtes dit, il va y avoir des gens qui vont vouloir faire la même chose. Donc, est-ce que je l'anticipe? Comment je me démarque? Est-ce que c'est quelque chose qui vous occupe?
Non. mais en réalité, c'est... pas quelque chose qui m'occupe, mais c'est quelque chose qui me stimule, on va dire. Évidemment qu'on sait, enfin, je me suis même pas posé la question de savoir s'il y aurait des concurrents ou pas. S'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc c'est sain qu'il y en ait. La seule façon de se démarquer, en fait, c'est moi, je ne pense pas à mes concurrents, je pense à mes clients. Et c'est quelle innovation je vais pouvoir apporter, quel nouveau développement je vais pouvoir apporter qui va faire que mon produit, c'est toujours le meilleur. Et c'est, en fait, ça, c'est probablement très lié à ma nature d'être très compétitrice. Et en fait, c'est la seule chose qui m'importe. Donc, par exemple, sur Litchi, on a lancé récemment un projet de géolocalisation des cagnottes parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était très utile pour nos clients. Par exemple, il y a une cagnotte qui est lancée au Mans, et ben, ça, on va pouvoir permettre du coup à toute la presse qui est dans la zone géographique du Mans d'être informée de cette cagnotte-là, aux gens qui habitent par exemple là-bas de pouvoir retrouver directement les cagnottes qui se passent autour d'eux. Avoir la possibilité, par exemple, je sais pas, s'il y a une catastrophe naturelle, de pouvoir cibler ben, toutes les cagnottes Irma et pouvoir les retrouver et y participer. Donc ce projet-là, il est complètement innovant dans un phénomène comme le web où tout est plat et le monde est partout. On retrouve du réel, en fait, et on ramène du réel. Et ça, c'est quelque chose qui est venu de l'écoute de nos clients, de la qualité que mes équipes, enfin, de la qualité d'écoute qu'ils peuvent mettre et dans la compréhension des problématiques et dans l'expression d'un point de vue innovation ensuite de ces besoins-là et des moyens que l'entreprise y met.
Et sur le rythme d'innovation, justement, entre le moment où vous développez seul ou avec vos premières équipes jusqu'en 2015, et ensuite, après le rachat, est-ce qu'il y a une différence, une accélération, ou au contraire, un choix plus, plus besogneux
Oui et non. Je pense qu'on innove plutôt plus vite, parce qu'on a plus de moyens. Pour autant, en réalité, et ça a toujours été le cas, on va supprimer parfois des choses qui n'ont pas lieu d'être ou de nécessité assez rapidement aussi. Donc en fait, on détruit et on crée pour en fait arriver au bon produit en face du besoin de notre marché et de nos clients en permanence. Donc c'est une sorte de cycle, on va dire, d'innovation. Pour moi, il faudrait qu'on puisse encore aller plus vite. Je pense que c'est important de... c'est pas une course en fait, mais c'est une capacité à ce que en fait le produit en permanence se réinvente pour toujours être en adéquation avec le besoin du marché qui est en face ou des clients qui sont en face plutôt.
Et je voulais qu'on s'arrête juste quelques instants également sur la manière dont vous conduisez l'entreprise aujourd'hui. Comme vous l'avez fait avant, vous avez mentionné vous étiez le sixième salaire de l'entreprise. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. Mais au-delà de ça, vous avez toujours été attaché, je crois, à la parité des salaires. Est-ce que c'est quelque chose, donc homme-femme, est-ce que c'est toujours le cas? Et comment vous arrivez à mettre ça en place dans un monde aussi, où, surtout en France, c'est, la question de la rémunération est quand même assez tabou.
C'est un vaste sujet. Comme on vient de faire les entretiens annuels, du coup, j'ai une bonne vision du sujet. De vérifier que les hommes et les femmes sont payés de la même manière, c'est assez facile. On ouvre un fichier Excel, voilà. Ça, on fait l'exercice une fois par an pour s'assurer que tout va bien. C'est pas évident parce qu'il faut quand même comparer à niveau d'expérience égal et ou à niveau de compétences égal. Mais voilà, c'est un point auquel je suis très attachée. Il est vrai, je pense que c'est avéré, et c'est à mon avis assez sociologique, que les femmes vont probablement parfois moins se battre pour le salaire ou moins demander d'augmentation que les hommes. C'est pas toujours le cas, mais c'est plus fréquemment quand même le cas. Donc nous, la façon dont on fonctionne pour éviter cet écueil-là, c'est qu'il y a une grille d'évaluation qui est remplie par le manager, qui ensuite donne un résultat, et ce résultat va donner en fait le pourcentage d'augmentation. Et en fait, pour évidemment éviter les écueils qu'il y ait les managers qui soient soit trop durs, soit trop cool, en fait on met en commun les notes de chacun et on prend la médiane de ça. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais voilà, ça permet que du coup chacun est, enfin, l'augmentation de chacun est du coup dépendante du résultat global de l'entreprise. Donc ça permet que tout le monde soit augmenté de façon juste et pas parce que je négocie plus avec mon manager. Ça, c'est un point important. Après, il y a des... j'accompagne beaucoup les femmes sur les évolutions de carrière en interne. Donc, on a 14 personnes cette année qui ont changé de poste au sein de la boîte, 8 femmes et 6 hommes. Et évidemment, il y a aussi une augmentation qui est liée au changement de poste. Voilà, donc principalement, on fonctionne comme ça. Moi, je vais passer beaucoup de temps à prendre une femme par la main et à lui dire « Bon, allez, tu vas avancer aussi sur ton plan de carrière, sur ton projet en interne, t'en es capable. Il faut juste généralement donner un peu confiance et puis ça se passe bien. » Après, aujourd'hui, on est une entreprise très féminisée à tous les postes, c'est-à-dire qu'on est deux femmes, enfin, au directoire, on est trois, on est deux femmes sur trois, donc voilà, pauvre Romain, il est tout seul. Au comité de direction, il y a 42% de femmes, donc on va dire qu'on est quasiment à égalité, et au global, dans l'entreprise, il y a 45% de femmes. Donc voilà.
Au-delà de la question de la parité homme-femme, il y a celle de la diversité, l'écosystème français est particulièrement mâle, blanc, issu de l'école de commerce, plutôt jeune. Est-ce que c'est quelque chose contre lequel aussi vous essayez de... Enfin, en tout cas, vous essayez de changer ces choses-là. Je crois qu'il y avait une petite anecdote que vous racontiez lors de France Digital Day sur quelqu'un qui était rentré chez Litchi, que vous aviez fait progresser.
Ouais. Oh, bah, il y en a plusieurs, j'espère. oui, bah... Moi, je recrute pas quelqu'un sur son sexe ou son issue... Enfin, ou son origine sociale. Mais pour autant, ça n'est absolument pas une barrière chez nous. C'est-à-dire que, enfin, il y a une ouverture à la diversité parce qu'on est de la diversité. En ayant une femme dirigeante, de toute manière, on est déjà dans la diversité. Donc effectivement, je pense qu'on est plutôt... représentatif de la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a des gens de toutes les, on va dire, cultures, beaucoup de nationalités différentes chez Litchi, toutes les religions, toutes les orientations sexuelles. Enfin voilà, chacun est différent et on a fait de cette différence, je pense, une force. Parce que quand on est différent, on réfléchit différemment et donc on innove plus vite parce qu'on résout un problème plus vite. Donc je crois que la diversité, elle est source de beaucoup d'apprentissage et de richesse pour une entreprise. En fait, comme moi, j'ai aucun jugement sur le CV ou l'origine de la personne, qu'elle soit sociale, ethnique, je m'en fous complètement. Donc de fait, je pense que ça a aussi été comme ça pour les premiers recrutements, puis les premiers recrutements étant de la même façon, etc. Enfin voilà, l'enrichissement s'est fait de façon naturelle. Après, c'est vrai que c'est difficile d'embaucher des gens qui n'ont pas de compétences, enfin pas de formation plutôt post-bac. On le fait et dans ces cas-là, on accompagne sur des formations et on fait aussi beaucoup de formations sur les salariés. Il y a 6 personnes l'année dernière qui ont bénéficié de formations à la fois en finance, en management, en développement web et puis plutôt sur la partie légale. Donc on essaie aussi de beaucoup consacrer de temps sur la formation interne. Ah, et en français aussi, j'ai oublié ça. Sur la formation interne. Et de dire que si on veut, on peut, et moi j'y crois de façon fondamentale. Je pense que l'entreprise, elle peut être un lieu où on recrée une société plus juste, et en fait on peut plus rapidement faire changer les mœurs et les convictions des gens au sein de ce groupe de personnes. Et que ça soit plus juste. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Donc, c'est vrai qu'on essaie de... Notre gardien fait une formation de développement web, accompagné par les équipes techniques de Litchi. Et je trouve que c'est super. Tout le monde est content. Et c'est un projet qui... Mais qui n'est pas le mien, en fait, qui est celui des équipes. Et parce que, voilà, chacun s'implique un petit peu. Et après, nous, on essaie de donner la possibilité... Enfin, en tout cas, j'essaie de donner la possibilité à des personnes de changer leur destin. Ensuite, c'est eux qui en sont maîtres.
Et donc ce sujet est particulièrement important dans un écosystème, comme on l'a dit, très, très stéréotypé. Est-ce que vous avez été témoin ou vous avez subi des actes, on va pas dire malveillants, mais en tout cas qui relèvent de cette nature un peu misogyne. Est-ce que vous avez rencontré ces personnes-là dans votre parcours ? J'imagine que oui, mais...
Bah, dire que non serait mentir, bien sûr, mais... Évidemment. Et d'ailleurs, je pense qu'au sein de l'entreprise, on vit un peu dans un monde... Je sais pas s'il est idéal, mais en tout cas, parfois, je me rends pas compte que tout le monde pense pas que... Enfin, je réalise que tout le monde ne pense pas comme nous, mais... Oui.
Mais vous vous rappelez le moment où vous avez été confronté à ça ? Par exemple, la première fois, ça doit marquer quand même.
Non, mais en fait, quand on est une femme, on est confronté au macho et au misogyne depuis la naissance. Donc, c'est même pas le milieu professionnel est une chose, mais on y est confronté à l'école, on y est confronté dans la société en général. Donc, en fait, on fait même plus attention. Mais oui, c'est certain qu'à plusieurs reprises, quand j'ai fait des rendez-vous avec Romain, mon associé, on s'adressait à lui et pas à moi, et il disait, mais c'est Céline, hein, la fondatrice et la dirigeante, donc maintenant, comme vous voulez, mais si elle commence à faire les cafés, ça va mal se passer pour vous. Mais moi, je... Que voulez-vous que je vous dise ? On ne peut pas changer tout le monde. Hein. Oui. Mais c'est certain que je pense que de temps en temps, j'agace. Je suis une femme, je suis jeune, j'ai réussi... Ah.
Et vous l'assumez ? Non ? Pas encore ? Totalement ?
Je sais pas. Je m'en fous un peu, en fait. je m'en fous un peu. Non, ce qui m'importe, c'est de... Je crois vraiment de faire en sorte qu'au moins, à mon échelle, les choses soient plus justes.
On va terminer cet entretien par une ouverture aussi, même si... Vous projetez dans Litchi et dans Mangopé encore pour un temps indéterminé. Vous avez quand même d'autres passions ou d'autres choses qui vous animent. Donc, c'est lesquelles ? On m'a parlé du chocolat. Et passion pour le chocolat.
Qui vous a dit ça ?
Donc,
c'est Alix, ça, qui vous a dit ça, non ? je sais pas. Oui, je mange beaucoup de chocolat, c'est vrai.
Est-ce que vous pouvez imaginer une carrière autre à un moment donné, ou en tout cas faire rejoindre ces différentes passions, et s'il y en a d'autres ?
Je sais pas. Non, je me laisse le temps de vivre pleinement l'aventure qui est aujourd'hui la mienne. Très sincèrement, j'ai vraiment aucune envie de faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Je suis très épanouie dans mon rôle chez Litchi et chez Mangopé. Le rôle de business angel me plaît bien, mais j'en ferai pas un métier parce que je préfère faire que voir faire. Pour le moment, j'ai plein de passions. J'essaie de passer du temps, comme on le disait, sur des sujets qui m'importent. Le fait d'être au conseil d'administration de Génération Libre est vraiment important pour moi, parce que je crois qu'il faut, combattre pour toutes les libertés. et surtout quand on n'est pas tous égaux, je pense que c'est une responsabilité importante. De chacun de nous, c'est surtout ça aujourd'hui qui me plaît et qui m'épanouit. Le chocolat, j'en mange. Il y a peu de chances que pour le moment j'en fasse un métier. Je préfère le manger.
et un destin politique un jour, ça peut vous animer ? Ah,
c'est marrant, on m'a beaucoup posé la question. J'ai beaucoup d'admiration pour les femmes et les hommes politiques, parce que je pense que c'est un métier extrêmement, extrêmement dur, alors probablement très grisant. Mais très dur, et je crois qu'il n'est pas fait pour moi.
Pourquoi ?
Parce que je pense que je suis trop entière et trop sensible pour ce métier-là.
D'accord. Céline Lazorte, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Vous venez d'écouter Take Off. Merci. Pour ne rater aucun épisode ou me laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. La semaine prochaine, je serai de nouveau à Paris en compagnie de Quentin Sagnier, fondateur de Devialet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.